chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, c'est le quiz biblique en direct et nous retrouvons Jérôme dans quelques instants.
C'est joli comme petite musique d'introduction. Bonjour à tous, bienvenue dans le quiz biblique et bonjour Sandrine.
Bonjour Jérôme.
Voilà, donc c'est parti, le quiz biblique, des questions qui sont préparées pour vous, amis auditeurs, auditrices. C'est très simple, il suffit simplement de nous appeler pour jouer avec nous. Voilà, donc je crois que nous avons d'ailleurs quelqu'un.
Nous avons Mireille.
Bonjour Mireille.
Bonjour.
Bonjour Jérôme.
Et Mireille, rappelez-nous d'où vous appelez.
J'appelle de Mulhouse.
De Mulhouse.
En Alsace.
En Alsace. Eh bien, bienvenue Mireille. Voilà, et donc on invite les auditeurs qui sont à l'écoute de ne pas hésiter à se joindre à Mireille qui va commencer ce quiz biblique. Eh bien Mireille, on est parti alors.
C'est parti.
Allez, c'est parti. Alors, première question. Première question. Quel auteur a rédigé le livre des Actes des Apôtres ? Quel auteur a rédigé le livre des Actes des Apôtres ? Trois possibilités, Mireille. Paul, Luc ou Pierre ?
Luc.
Et c'est une excellente réponse de Mireille. Et oui, les spécialistes de la Bible désignent bien, les historiens désignent Luc comme étant bien sûr l'auteur des Actes. Et cette identification recoupe la tradition chrétienne. Voilà, le premier témoin littéraire, c'était Origène au début du 3e siècle. Et il est admis d'ailleurs par les spécialistes qu'à l'origine, au départ, l'évangile de Luc et les Actes des Apôtres ne formaient qu'un seul ouvrage. C'était nommé Luc-Acte. Voilà, et donc c'est les Actes des Apôtres qui se veulent la première histoire du christianisme, première communauté chrétienne naissante. Alors on pense également que la rédaction des Actes est fixée autour des années 80-90, à peu près par les spécialistes. Très très bonne réponse de Mireille, et je vois que Sandrine s'agite à régie.
Oui, nous avons Roselyne avec nous maintenant. Bonjour.
Roselyne.
Bonjour à Mireille, bonjour à Jérôme et Sandrine, bonjour.
Bonjour Roselyne.
Et aux auditeurs. Oui.
Roselyne de Ops.
Oui.
On prononce le S. Hein.
Oui, on prononce le S.
Ah.
Oui.
Tu vois, Sandrine, qu'on prononce le S. Elle a rien dit, la pauvre.
Elle a rien dit.
Oui, de Ops. Alors, Mulhouse, Ops, le match, c'est parti. Mais voilà, c'est un sport collectif, donc il faut être nombreux pour jouer. Donc, n'hésitez pas. Eh bien, Roselyne, on avait commencé donc la première question avec Mireille, qui a donné une bonne réponse. On va donc continuer avec vous, Roselyne, pour la deuxième question.
Oui.
Alors, Roselyne, quel prophète de la Bible hébraïque annonce la prophétie que le Messie naîtra à Bethléem ? Quel est donc le prophète qui fait cette prophétie de la naissance du Messie à Bethléem ? Trois possibilités, Roselyne. Isaïe, Osée ou Michée ?
Michée.
Oh là là là, c'est une excellente réponse, des Roselyne.
Une excellente réponse.
Eh bien, c'est un sans faute pour l'instant pour ces deux questions de la part de Mireille et Roselyne. Oui, c'est Michée, on est dans le chapitre 5, voici le verset. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite parmi les clans de Juda, c'est de toi que sort pour moi celui qui doit gouverner Israël. » Très très bonne réponse. Nous sommes dans le quiz biblique, amis auditeurs, on se réveille et on appelle. Alors, question suivante, on revient à Mireille.
Oui.
Alors Mireille, là c'est une question un peu d'histoire, là je suis sorti un peu du cadre, comme toujours, Jérôme, vous qui sortez du cadre, ça va pas quoi. Bon bref, nous sommes en moins 63 avant Jésus-Christ. Les armées romaines conquièrent la terre d'Israël. La question, quel général conduit les armées romaines ? Dans cette conquête de la terre d'Israël. trois possibilités, Mireille. Pompée, Sylla ou Jules César ?
Jules César.
Jules César pour Mireille. Est-ce que, Roselyne, vous êtes du même avis ?
Vous pouvez répéter les noms,
alors,
s'il vous plaît ?
Pompée, Sylla ou Jules César ? Alors, Jules César pour Mireille.
Peut-être Pompée ?
C'est Pompée, oui, Roselyne, c'est une bonne réponse. Excellente réponse, Roselyne, oui, c'est Pompée. C'est lui qui conduit les armées, c'est un général, donc. Il a conquis toute l'Asie mineure et la Syrie, et il va finir par fondre sur la Palestine. Alors, il va quand même il va établir un siège pour Jérusalem, parce qu'on sait que Jérusalem, c'est quand même en hauteur, c'est une forteresse. 3 mois de siège implacable. Et Pompée va s'emparer de Jérusalem, en massacrant d'ailleurs 12 000 juifs au passage.
Voilà.
Alors, c'est intéressant de noter la cruauté, mais aussi la stratégie, c'est-à-dire qu'il a profité du repos sabbatique pour attaquer, sachant que les juifs observants répugneraient bien sûr à combattre en ce jour sanctifié. Et on sait également que Pompée, accompagné de ses lieutenants, va oser pénétrer dans le temple et jusque dans le Saint des Saints. Une salle dans laquelle, selon la Torah, seul le grand prêtre était autorisé à entrer lors de la fête de Yom Kippour. Alors la défaite politique, militaire, elle est grave pour les Israélites, mais le pire, c'est peut-être l'humiliation religieuse, qui a encore un impact encore plus considérable. Donc la vision prophétique, qui existait bien sûr déjà à l'époque, la vision prophétique d'un roi messie prenant la tête d'Israël, puis de toutes les nations du monde, n'a jamais paru à ce point sans espoir à ce moment-là, de l'histoire des Israélites. Voilà, c'était une question posée à Mireille, c'est Roselyne qui a répondu. Pompée, bonne réponse. Et on continue donc avec vous, Roselyne. Pour la question suivante. Alors là, il n'y aura pas de choix A, B ou C, hein, j'en ai pas fait là. Attention,
ah,
Roselyne, on se concentre.
Oui.
Alors, pourquoi Hérode le Grand ? Donc là, le premier Hérode le Grand, hein, qui va régner un petit peu... en moins 4, à partir de moins 4. Pourquoi Hérode le Grand craignait-il autant la naissance du nouveau roi des Juifs ? Pourquoi Hérode le Grand craignait-il autant la naissance du nouveau roi des Juifs ? On sait que c'était une grande crainte pour lui, mais qu'est-ce qui motivait cette crainte ? Est-ce que vous avez une idée, Roselyne ?
Qu'il était roi de... Il était roi de...
Alors, Hérode lui-même, effectivement, était le roi, hein, le roi des Juifs.
Et il avait peur du Christ naissant parce que les mages sont venus dire au roi Hérode « Nous avons vu son étoile se lever à l'Orient, ils sont venus nous prosterner devant lui. » Alors il a convoqué les sages d'Israël, les scribes et les pharisiens, et il a demandé où devait naître le Christ. Ils ont répondu à Bethléem. Et Hérode était très sanguinaire, il a tué tous ses enfants, enfin.
Voilà, et c'est ça la réponse, c'est qu'effectivement, il a été posé comme roi des Juifs, mais il n'a aucune légitimité pour être le roi des Juifs, pour revendiquer le trône de David. C'est un titre qu'il a usurpé, avec la collaboration, bien sûr, du pouvoir romain. Alors pourquoi ? Parce qu'aux yeux des Israélites, seul un enfant issu de la généalogie de David peut revendiquer ce titre.
Et oui.
Hérode le Grand n'est pas dans cette généalogie de David.
Et donc il avait peur de perdre son poste.
Et oui, parce qu'il avait peur de perdre son poste. Il s'est dit, si jamais un juif venait maintenant et se réclamait de la descendance de David, il aurait la légitimité que moi, je n'ai pas.
Ah oui, d'accord.
Et,
ça
c'est,
pas, oui.
Et c'est l'empereur romain Auguste, donc à l'époque, qui a accordé à Hérode le Grand le titre, qui était très disputé, hein, ce titre de roi des Juifs, et qui va faire d'ailleurs d'Hérode le Grand le plus riche et le plus influent dirigeant du bassin méditerranéen oriental sous contrôle romain. Or, même si la famille est pauvre, eh bien Jésus, lui, il appartient à une lignée royale.
Davidique.
Et oui, ce qui n'est pas le cas de ce Hérode.
Oui.
Donc, on imagine bien que les Juifs pieux se disaient « Mais quel est cet usurpateur ?» en parlant d'Hérode. Il n'a pas la légitimité pour occuper cette place, cette fonction.
Oui.
En tout cas, voilà, bonne réponse de Roselyne. Et je crois que nous avons quelqu'un d'autre.
Jean-Mathieu vient nous rejoindre.
Bonjour. Attendu comme le Messie.
Bonjour Jean-Mathieu.
Bonjour Jean-Mathieu. Eh bien, voilà, nous sommes trois, Jean-Mathieu de Villefranche, dans le département du Rhône, avec Roselyne de Ops, Mireille de Mulhouse. C'est parti pour la question suivante. Alors, j'étais avec Roselyne, je crois, à l'instant. On va poser la question suivante à Jean-Mathieu et faire patienter Mireille. Ça vous va ?
Oui, bien sûr.
Bon, c'est parti. Alors, Jean-Mathieu.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'un écrit apocryphe, un écrit apocryphe. Alors, A-P-O, C-R, Y, P-H-E, Y apocryphe. Trois possibilités, Jean-Mathieu. Est-ce que c'est un texte liturgique ? Est-ce que c'est un écrit mensonger ? Ou est-ce que c'est simplement un écrit dont l'authenticité n'est pas reconnue ?
L'authenticité n'est pas reconnue.
Très bonne réponse de Jean-Mathieu. Qui commence lui aussi très fort, hein, comme Mireille et Roselyne. Première question, paf, la réponse. Oui, on le qualifie généralement d'apocryphe, qui veut dire en fait en grec caché, un écrit dont l'authenticité n'est pas établie. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Mais dans le domaine plus biblique ou religieux, l'expression désigne, à partir de la construction des canons, les écrits reconnus, validés par l'Église, un écrit considéré comme non authentique par les autorités religieuses. Eh bien, c'est pas mal, ça.
Oh. Ah, il est fort, Jean-Mathieu.
Il est fort, Jean-Mathieu.
Non, c'est pas fort, moi.
Ah, si.
Alors,
c'est le Seigneur qui est fort.
En toi, oui, en toi.
Voilà, guidé par l'Esprit-Saint, nous continuons avec Mireille.
Oui.
Mireille, on va rester avec les apocryphes. Il s'agit d'un récit apocryphe, ou d'un écrit, pardon, apocryphe. Et il a pourtant été désigné par certains comme le cinquième évangile. Oula, cette question n'est pas facile quand même. De quel évangile apocryphe s'agit-il ? Alors Mireille, trois possibilités. Vous savez que des apocryphes, il y en a eu plusieurs, surtout après le deuxième, troisième siècle. Tout le monde s'est mis à écrire des histoires sur Marie, sur Jésus, sur Judas, sur les apôtres. Alors, lequel est considéré comme par certains, hein, pas par tous, mais comme le cinquième évangile ? L'évangile de Pierre, première possibilité. L'évangile de Thomas ou l'évangile de Philippe ?
Philippe.
Philippe pour Mireille. Alors, est-ce que Roselyne, Jean-Mathieu, vous êtes d'accord avec Mireille ? Vous avez une autre idée ? Pas du tout.
Répétez parce que j'ai pas compris là.
Alors, quel est cet évangile apocryphe, hein, donc non reconnu comme canon dans l'Église chrétienne, qui est reconnu comme étant le cinquième évangile par certains, l'évangile de Pierre, l'évangile de Thomas ou l'évangile de Philippe.
Pierre.
Pierre pour Jean-Mathieu.
Moi, je dirais Thomas.
Qui c'est qui dit Thomas, Roselyne ?
Oui.
Eh bien oui, c'est Thomas. Bonne réponse de Roselyne. Bon.
Oui, mais j'ai entendu les réponses des autres, alors c'était facile. LOL.
Oui, c'est ça.
Ah ben oui, il reste plus que. Ben, c'est plus que.
Ah ben voilà. Oui, mais voilà, habile, hein, Roselyne.
C'est quoi Thomas, hein.
Ah ben oui, il faut savoir écouter.
C'est Thomas. LOL.
Et oui, pour gagner, il faut savoir écouter. Voilà là, ce qu'on peut tirer comme morale. Et oui, c'est l'évangile de Thomas. Bon, je sais que la question n'est pas très facile, mais pour les spécialistes bibliques et les chercheurs, l'évangile de Thomas, c'est d'ailleurs le document le plus précieux qui a été découvert au cours des derniers 2000 ans. C'est un texte qui a été trouvé, je crois, intégralement, c'était en décembre 1945. C'était à Nag Hammadi, en Haute-Égypte. Alors, c'était un fermier hein, qui creusait le sol à la recherche de sédiments fertiles. Et ce fermier, sur quoi il tombe ? Pouf ! Il tombe sur ce texte caché. Dans une boîte, une amphore, je ne sais plus très bien.
Il est tombé sur un véritable trésor,
caché d'ailleurs au IVe siècle, afin d'échapper à la destruction par des chrétiens orthodoxes, hein, qui auraient jugé son contenu hérétique. Alors, nombre d'experts le datent quand même du IIe siècle, donc encore deux siècles plus tôt. Alors, cet évangile de Thomas, comment il est formé ? Ben, il est formé tout simplement, il n'y a pas d'histoire, d'anecdotes sur des récits de la vie de Jésus, etc., non. C'est simplement 114 paroles de Jésus, ce qu'on appelle des logias, et qui sont souvent précédées de la mention « Jésus a dit ». Voilà, et ces paroles ont beaucoup de parallèles dans les évangiles de selon Matthieu, selon Luc, un petit peu moins selon Marc. Et ces parallèles ont souvent une rédaction et une conclusion qui est un peu différente de ce qu'on trouve dans les synoptiques, hein, chez Matthieu, Marc et Luc. Voilà, l'évangile de Thomas, qui est quand même une belle découverte en 45.
Ouais.
D'ailleurs, l'éléphant est content. C'est quoi déjà le cri de l'éléphant ? Sandrine, tu sais, non ?
Il barie ?
Ah ben non.
Il barie. C'est ça, oui, l'éléphant barie.
Il barie ?
Je crois, hein.
Ah ouais.
Elle est forte, Sandrine, hein. Dès qu'on attaque les animaux, surtout les animaux africains. Oui, alors c'est voilà, pour l'évangile de Thomas, et on continue la question suivante avec Roselyne. Alors attention, Roselyne, est-ce que vous êtes prête ?
Oui.
Alors, qui a été le premier messie de la Bible ? Qui a été le premier messie de la Bible ? Alors, vraiment le sens original du mot messie, hein, celui qui est oint. Roselyne, s'agit-il d'Aaron, de David ou de Jésus ? Qui a été le premier messie de la Bible ?
Aaron, le premier, ouais.
Et oui, c'est une bonne réponse, Roselyne, c'est Aaron. Elle est fortiche, hein, Roselyne, aujourd'hui. Alors, on se trouve dans le livre de l'Exode, on est au chapitre 40, verset 12-15. On sait que le mot Messie vient de l'hébreu makar, qui signifie « loin », et de même que le grec Christos, duquel vient le terme de Christ, c'est-à-dire le Messie. Donc, vous le savez, c'est une cérémonie au cours de laquelle on versait de l'huile sur la tête de l'élu, afin de consacrer son intronisation en tant que prêtre ou bien de roi. Alors évidemment, Aaron, lui, c'est un prêtre, il a été oint par son frère Moïse, en tant que grand prêtre, désigné donc par le terme de Messie. On sait qu'il y a Samuel également, des centaines d'années plus tard, Samuel qui va réaliser l'onction de David. Alors cette fois, ce n'est pas l'onction du prêtre, mais c'est l'onction du roi. David, roi d'Israël.
Ouais.
Mais ce qui est intéressant de remarquer, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure dans une question précédente, c'est qu'il ne suffit pas d'être intronisé et oint pour devenir Messie. Il faut aussi appartenir au bon lignage généalogique. Et oui, un prêtre consacré, il devait être un descendant d'Aaron. Et un roi légitime, il doit être un descendant de David. Vous avez vu ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, ça revient un peu...
Ah oui, sur Hérode.
Et oui. Et c'est important pour, dans le contexte culturel de l'époque. La généalogie était très importante. Personne... On ne pouvait pas arriver comme ça et se dire, bah écoutez, même si j'étais intronisé, je peux devenir roi si on n'appartient pas à la bonne lignée. Et d'ailleurs, Marie, elle était une descendante directe de David, mais elle est également liée par son ascendance à la tribu de Lévi, c'est-à-dire à une ligne sacerdotale issue d'Aaron. Et on le voit puisqu'elle est parente avec Élisabeth. Et c'est une famille sacerdotale, Élisabeth et Zacharie.
Zacharie.
Ils sont tous les deux de descendance sacerdotale. Et donc Marie, elle a une double ascendance, c'est extraordinaire. Elle a une ascendance en tant que grand prêtre et descendance également de David pour les rois. Donc c'est extraordinaire et on comprend bien dans la mentalité donc culturelle, comme je disais dans l'époque de ce temps-là, le lignage, la généalogie, c'est très important. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Matthieu et Luc vont nous donner une généalogie de Jésus. C'est pas pour faire joli. C'est pour montrer.
Mais c'est barbant, les généalogies. Hein,
ah, c'est super barbant. Mais.
C'est au début, là. Dans l'évangile, le début. Là.
Alors, Matthieu, c'est au début. Luc, je crois que c'est au chapitre 3. C'est un peu plus tard. Mais ils donnent tous les deux. Alors que Jean et Marc ne vont pas du tout mentionner la généalogie. Mais pour Matthieu et Luc, c'est important. Mais c'était important pour les juifs de l'époque. Hein. Voilà.
Ah oui, parce que c'était important pour eux.
Il fallait être dans la lignée. Il fallait pouvoir prouver qu'on avait un ascendant de cette lignée.
Oh, le bébé.
Qu'est-ce qu'il fait là, le bébé ?
Le petit Jésus.
Le petit Jésus.
Voilà, donc pour cette question sur la lignée et la généalogie, on continue la question suivante avec Jean-Mathieu. Jean-Mathieu ?
Oui.
Alors, parmi les trois évangiles suivants, lequel commence son récit avec la prédication de Jésus, c'est-à-dire Jésus déjà adulte ? trois possibilités, Jean-Mathieu. Matthieu, Marc ou Luc. Alors, lequel de ces trois commence donc son récit avec Jésus déjà adulte? Matthieu, Marc ou Luc?
Matthieu, je pense.
Matthieu pour Jean-Mathieu. Est-ce que Roselyne, Mireille?
Marc.
Marc pour Roselyne?
Luc.
Ah, c'est bien, chacun le sien. Chacun le sien. Et Jean pour Sandrine. Ah, mais non, mais elle joue pas, Sandrine.
Oui, ah. C'est Jean, c'est vrai, c'est Jean.
Non, non, Jean n'est pas cité dans les trois, justement, je fais exprès. C'était le choix entre Matthieu, Marc et Luc, et c'est Roselyne qui a la bonne réponse.
Mais dans Jean aussi, non?
Dans Jean, il n'y a pas de récit non plus d'enfance. En fait, il y a un récit d'enfance chez Matthieu et chez Luc.
Il y a le prologue chez Jean, et après, il y a de suite Jean-Baptiste et Jésus.
Exactement, donc il n'y a pas de récit d'enfance, et on commence avec Jésus adulte, aussi bien chez Jean que chez Marc. Et donc la bonne réponse était bien sûr Marc, qui nous présente Jésus déjà adulte. Alors que Matthieu et Luc vont nous donner un récit d'enfance, tous les deux. Oh là là, l'heure tourne, mais nous avons encore du temps, chers amis.
Alors j'en profite pour lire un petit SMS qui nous est arrivé. Bonjour Radio Maria et aux auditeurs, je suis avec vous pour le quiz biblique, c'est Flo du Nord. Quelle joie de vous entendre.
Alors on salue à nouveau Florence, et on attend que Florence aussi vienne jouer parce qu'elle nous envoie des SMS, et ça on est très content parce que n'hésitez pas d'ailleurs, amis auditeurs, à vous manifester par SMS, hein, voilà. Et ça serait bien que Florence, elle joue aussi. Un jour, on aura peut-être la joie d'entendre sa voix. Voilà, oui. Merci Florence. Et, Et je crois que je suis cette fois avec Jean-Mathieu, c'est ça pour la question Non, Jean-Mathieu, c'est...
Non, c'est bon, non.
C'est à l'instant. Avec Mireille, pardon. Mireille.
Oui, c'est avec moi.
Are you ready, Mireille?
Oui, je suis prête.
Alors, on va partir dans le livre des juges. Alors, on sait que le livre des juges y raconte la période de l'histoire des Hébreux entre la conquête du pays de Canaan, alors ça on le découvre dans le livre de Josué, et l'apparition de la royauté. Alors, on est à une époque, c'est vers moins 1150, vers moins 1130 avant Jésus-Christ, et c'est sous la pression d'un danger et sur un mode défensif que les tribus d'Israël mettent à leur tête un chef. C'est donc l'époque des juges. Alors la question, Mireille, qui sont ces juges? Qui sont-ils? Trois possibilités. Première possibilité, des rois, ou bien des grands prêtres, ou bien des chefs militaires.
Oh là là.
Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il va chercher là? Des rois, des grands prêtres ou des chefs militaires, on les appelle les juges. Bon, c'est bien gentil, on a même un livre sur les juges, mais c'est qui ces juges? Quelle est leur fonction?
Le livre des rois, des rois.
Alors, dans le livre des juges.
Oui.
Et Mireille, des rois, pour Mireille. Bon, est-ce que pas. Roselyne, Jean-Mathieu, vous
c'est
êtes...
Pas bon. Moi, je dirais des soldats.
Des chefs militaires.
Oui, des chefs militaires, moi aussi. Ouais.
Et oui, ce sont des chefs militaires, c'est la bonne réponse.
C'est vrai.
Mireille, on garde courage, Mireille. On n'est pas là pour gagner, on n'est pas là pour perdre, on est là pour jouer.
On est là pour s'amuser.
Et oui, ce sont des chefs militaires, effectivement. C'était donc des chefs militaires, ces juges. Ils jouent des rôles importants en temps de crise, bien sûr. Ils sont responsables de fournir des jugements aux peuples locaux, de diriger les alliances temporaires entre les tribus. Parce qu'il y avait plusieurs tribus, il fallait que tout le monde s'entende. Ils ne sont pas guidés par les lois de l'Alliance, ni par celles de l'Exode. Les juges étaient choisis non pas pour leur vertu, mais pour leur capacité et habileté dans des temps de difficulté parmi les populations. Et c'est après, plus tard seulement, que viendra le roi. Un jour, les Hébreux vont demander, voilà, il est temps d'avoir un roi. Alors qu'il n'y avait pas de roi à l'époque. On va dire des chefs de tribu même, on pourrait dire, peut-être. Alors, la question suivante. Je vous rappelle que nous sommes en direct de Mexico et il fait 32 degrés actuellement. Et Sandrine mange du guacamole.
On est à zéro chez nous.
Tu me laisseras du guacamole, hein, Sandrine. À zéro, à Ops. Eh bien, ici, c'est un peu plus, mais pas beaucoup. Et combien il fait à Mulhouse, là ?
À Mulhouse, je crois qu'on était... On était à 2, mais le ressenti était 0, parce que là, il y avait du vent, un vent du nord.
Ah, le vent du nord.
Je
ferme un peu les yeux, je rêve, le vent du nord. Pourquoi tu me dis glaçon ? Et chez Jean-Mathieu, il fait combien ?
Ben, chez nous, il fait 3.
Ouais, oui, bah oui, voilà, on est un peu tous dans le même bain. Hein.
Ouais.
Voilà, on continue la question suivante. Je suis avec Roselyne.
Hein ?
Alors, Roselyne, on va rester dans l'Ancien Testament. Ouh, ouh, ouh. C'est un peuple, il est installé sur la côte de la Méditerranée. Et il va être l'ennemi numéro 1 d'Israël, justement à l'époque des juges dont on vient de parler. Vraiment l'ennemi numéro 1 d'Israël. On sait que Josué va conquérir la terre de Canaan, mais la terre de Canaan, elle est déjà occupée. Hein. Il y a différentes tribus, mais cela, ça va être vraiment l'ennemi numéro 1. 3 possibilités, Roselyne. S'agit-il des Ammonites, des Phéniciens ou des Philistins ?
Au hasard, les Philistins.
Eh bien, le hasard fait bien les choses. Hein.
Bravo. Merci, Mireille.
Il y a l'Esprit Saint qui souffle à Ops. Hein. Il n'y a pas de doute.
Oui, peut-être.
Et oui, c'est les Philistins.
Il souffle partout.
Il souffle où il veut aussi.
Oui, oui, je veux.
Oui, les Philistins, ils sont surtout connus par la Bible. Ils sont les ennemis mortels hein, des Israélites, pour qui ils constituent une menace militaire et culturelle de premier ordre dès l'installation des Israélites. Voilà, donc il y a des combats, on sait qu'il y a les fameux épisodes célèbres, hein, l'histoire de Samson et Dalila, ou le combat de David contre Goliath, c'est contre des Philistins en réalité.
Mmh.
Et on dit que les spécialistes nous disent que ces guerres ont fortement contribué à constituer l'identité et la royauté israélite. Ah. Là, je viens d'ouvrir la fenêtre, vous entendez les oiseaux ?
Ouais.
Il fait 33 degrés à Mexico. Alors, question suivante, on est avec Jean-Mathieu.
Oui.
Jean-Mathieu, prêt ?
Oui.
Question géographie. Quels sont les noms des deux pays qui sont situés à la frontière nord d'Israël ? Eh bien, la frontière nord d'Israël. 3 possibilités, Jean-Mathieu. La Turquie et l'Irak, le Liban et la Syrie, ou la Turquie et le Liban ?
La Turquie et le Liban, je pense.
La Turquie et le Liban pour Jean-Mathieu. Roselyne, Mireille, est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Mathieu ? Quels sont donc les deux pays situés à la frontière nord d'Israël, la Turquie et l'Irak, le Liban et la Syrie, ou, selon Jean-Mathieu, la Turquie et le Liban ?
Il y avait la Turquie... On va dire la Syrie.
La Syrie et donc le Liban.
Le Syrie-Liban.
Alors là, c'est Mireille. Et c'est Mireille qui a raison.
Ah.
Le Liban et la Syrie qui sont au nord de... Voilà, si on est en Galilée...
Et bravo Mireille.
Merci Roselyne.
Je réponds pas.
Bravo, bravo.
Bravo, le Liban et la Syrie, effectivement, au nord de la frontière d'Israël. Et voilà, donc la Turquie, c'est un peu plus, il faut passer la Syrie, c'est encore au-dessus. J'en étais à Jean-Mathieu, c'est ça ?
Oui.
Et donc, Mireille ?
Oui.
Attention, est-ce que vous êtes prête ?
Oui.
Alors, comment s'appelle la traduction grecque de l'Ancien Testament ? Qu'est-ce que c'est que ces questions, Sandrine, enfin comment s'appelle la traduction grecque de l'Ancien Testament ? Il y a une époque, ils se sont réunis, les Hébreux, ils se sont dit, oula, on a une diaspora déjà importante, c'est-à-dire qu'on est des Hébreux qui sont en dehors de la Palestine, par exemple à Alexandrie, etc., et ailleurs, et ils ont perdu, ils ne parlent même plus l'hébreu. Donc comment voulez-vous qu'ils puissent lire leur texte sacré ? Donc on s'est mis à traduire l'hébreu en grec. Alors, cette traduction grecque de l'Ancien Testament, s'agit-il de la Septante, du Targum ou de la Vulgate ?
La Vulgate et la Septante, alors quand on est dans les psaumes,
Il y a un moment qui a un décalage au dixième, la Vulgate.
La Vulgate pour Mireille.
Oh la septante, oh là là, je sais plus.
Ah, hésitation.
Oui.
Il parle comme ça parce qu'il est sous au Mexique. Alors.
Oui, bon, allez. J'ai déjà répondu, mais je suis pas...
Tiens, attends, encore une deuxième chance, Mireille.
C'est la septante.
Et oui, c'est la septante. Et oui, la septante, c'est une traduction de la Bible hébraïque en grec, selon une tradition d'ailleurs rapportée dans la lettre d'Aristée. On est au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Et la traduction de la Torah, parce qu'en fait c'est la Torah qui est traduite, aurait été réalisée par 72 traducteurs, c'est pour ça qu'on dit 72, 72 traducteurs d'Alexandrie vers 270 avant Jésus-Christ. Voilà, pour que les Hébreux puissent lire le texte dans le grec, parce qu'ils commençaient tous à parler grec, bien sûr, puisque le grec était la langue internationale de l'époque du bassin méditerranéen.
Oui.
Alors, on sait que, par contre, le judaïsme n'a pas adopté la Septante. Il a préféré rester fidèle au texte hébreu. Voilà. Et...
Il lit seulement les cinq premiers livres de la Bible, hein, la Torah.
La Torah, c'est ça, les cinq premiers livres. Alors, j'avais cité le Targum dans les réponses. Le Targum, c'est une traduction de la Bible hébraïque en araméen, cette fois. Et la Vulgate, c'est la traduction de la Bible qui a servi de texte officiel à la liturgie de l'Église catholique jusqu'au Concile Vatican II. Donc, c'est plus tard. C'est
quoi, Saint Jérôme a utilisé.
Mais oui, le grand Saint Jérôme. Voilà. Mais oui. Ouais. Oui, parce que bon, là, Saint Jérôme, c'est du 4e siècle. Hein, je crois donc que c'est plus tardif. Eh bien, nous avons encore un peu de temps.
Et de nouveau un SMS. Comme Florence, je suis toujours l'émission du quiz biblique. Bravo à vous tous. Et c'est Elisabeth qui nous envoie ce message.
Ah, merci Elisabeth. On salue Elisabeth.
On salue Elisabeth. Salut Elisabeth. Bonjour.
Salut.
Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Eh bien, nous continuons. Question suivante avec Roselyne.
Oui.
Alors, dans l'Ancien Testament... Toujours dans l'Ancien Testament, par quel autre nom désigne-t-on tout simplement la mer Méditerranée ? On la désigne par un autre nom, la mer Méditerranée. Trois possibilités : la mer de l'Est, la mer de sel ou la grande mer. Et pas la grand-mère. Hein.
Je sais pas. Je dirais la grand-mère, mais je sais pas.
La grande mer.
Grande mer, je sais pas du tout.
Eh bien, c'est une bonne réponse.
Oui.
C'est une excellente réponse.
Mais je ne connaissais pas.
Oui, alors on peut trouver ça dans le texte, par exemple dans le livre des Nombres, chapitre 34, verset 6-7, dans le livre de Josué, au chapitre 1, dans Ézéchiel, chapitre 47, verset 15, on trouve la grande mer, ça désigne la Méditerranée. Les Romains, eux, ils l'appelaient Mare Nostrum. Les Romains, ils ne s'embêtaient pas. Mare Nostrum, c'est notre mer.
Notre mer.
C'est à nous.
Oh, notre mère, mais ils se l'approprient, quoi.
Ils se l'approprient. Voilà. Bon, en même temps, ils avaient la puissance. Hein.
Ah ben oui, lol.
Mais effectivement, dans la Bible hébraïque, on l'appelle la grande mère, et ça désigne la mer Méditerranée, bien sûr. Et on continue avec Jean-Mathieu.
Oui.
Alors Jean-Mathieu, quel est le nom de la... C'est la géographie et de l'histoire en même temps. Quel est le nom de la capitale romaine de Galilée ? Attention, je dis bien Galilée, pas la Judée où il y a Jérusalem. La Galilée au nord, qui est située d'ailleurs, cette capitale, à 7 km seulement de Nazareth, et qui est considérée comme la perle de la Galilée par l'historien Flavius Joseph. Quel est donc le nom de cette capitale romaine de Galilée ? Trois possibilités, Jean-Mathieu. Césarée, Tibériade, ou Séphoris.
Tibériade.
C'est pas facile, hein. Elles sont pas faciles les questions aujourd'hui. Hein.
Tibériade.
Tibériade pour Jean-Mathieu. Est-ce que Mireille, Roselyne, vous êtes d'accord avec Jean-Mathieu ?
Césarée pour moi.
Pardon ?
Césarée pour Mireille.
Césarée pour Mireille. Tibériade pour Jean-Mathieu. Et Roselyne ?
J'ai pas entendu la question.
Quel est le nom de la capitale romaine de Galilée ? Attention, je dis bien Galilée, qui est située à 7 km de Nazareth. Et qui était considérée comme la perle de la Galilée par l'historien Flavius Joseph. Césarée, Tibériade ou Séphoris ?
Je ne sais pas du tout.
Alors, c'est Séphoris. Oh. Et donc, c'est ni Tibériade ni Césarée. Oui, elle n'est pas facile, hein. Je reconnais que là, c'est pas facile, cette question.
Ah ben, ouais. Depuis l'année dernière, ça continue, hein, c'est pas facile.
Oh là là, il faut qu'il se calme, ce Jérôme. Hein. Il va chercher des questions. Alors, c'est bizarre parce que c'est Phorus, on n'en parle pas trop dans le texte. Et pourtant, vous imaginez bien que Jésus, il habite à 7 km. Vous imaginez bien que Jésus, il connaît ces Phorus. Et que, d'ailleurs, certains disent que dans la période de la vie cachée de Jésus, c'est-à-dire quand même 30 ans, hein, c'est énorme, il a peut-être pu travailler à ces Phorus parce qu'il y avait des énormes travaux, d'ailleurs entrepris par Hérode et les Romains.
C'est pas loin de Nazareth ?
Pardon ?
C'est pas loin de Nazareth ?
7 km.
Ah, c'est Phorus ? Ah, d'accord.
C'est Phorus.
Excusez-moi, j'avais pas entendu, excusez-moi.
7 km au nord. Et donc, certains disent que peut-être, voilà, Jésus a peut-être travaillé là-bas. C'est possible,
ah ben oui.
Parce qu'il y avait un besoin de main-d'œuvre considérable et ça faisait vivre, bien sûr, toutes les localités qui étaient autour, dont Nazareth.
Eh oui.
C'était une ville très importante pendant la période du Second Temple, et notamment à partir de la période romaine. Elle était même, donc, je l'ai dit, la capitale de la Galilée, au moment d'ailleurs où va éclater la grande révolte juive en 66-73 après Jésus-Christ.
Mmh.
Et le chemin de Jésus passe par cette localité. Alors, dans les textes des évangiles, on a l'impression que Jésus va éviter cette ville. Hein.
Ouais.
Peut-être trop grande, trop riche, trop, comment dire, dénaturée de l'esprit hébraïque. Mais en tout cas, c'est sur son chemin. Hein. Quand il va vers le sud, on ne peut pas louper ses Phorus, quoi.
Ah.
Qui est sur une montagne, qui domine et qui est une ville très importante. Chers amis, c'est l'heure, je vois que l'heure tourne.
Bon,
on a fini.
on a fini, Mireille.
Mireille, wow. Le calvaire est terminé. Je vais essayer
alors,
de...
Au revoir.
En tout cas, merci en tout cas à tous les trois. Merci Mireille, merci Roselyne, merci Jean-Mathieu.
Merci
Florence, merci Elisabeth. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois. Merci Mireille, merci Roselyne, merci Jean-Mathieu.
Merci, bonne soirée, c'était sympa.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.
Merci à tous. Au revoir.
Merci,
à tous.
Au revoir.
Et toutes. Au revoir.
Au revoir. Et merci Sandrine.
Merci Jérôme.
À vendredi prochain, même heure, 17h.
À vendredi prochain, merci.